بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. جفران الإسلام. Le hadith que nous venons de lire s'inscrit dans la suite du chapitre de Muraqabatullah, la pensée d'Allah Azza wa Jal, le fait de développer une relation permanente avec notre Seigneur dans notre cœur plus profond de soi. Et c'est dans la suite logique également du hadith qu'on avait vu la semaine dernière lorsque le prophète alayhi salat wa salam a conseillé à sa umma: ittaqillah haythuma kunt, développe la crainte d'Allah quelles que soient les circonstances, quel que soit l'endroit où tu es et quelle que soit l'époque. Et la crainte d'Allah n'a pas de limite ni spatiaux, pas d'espace ni temporel. Ça, c'est une qualité qui est propre, qui est intrinsèque à chaque mu'min. Et le deuxième conseil que le prophète alayhi salat wa salam avait donné, cela concerne maintenant les a'mal bil jawarih, les actions qu'on fait avec les membres. Donc, le premier conseil, c'est une relation intérieure. C'est, on parle de spiritualité, comment est-ce que nous devons développer la crainte d'Allah dans notre cœur. La définition claire et précise de la crainte d'Allah, c'est une crainte qui est synonyme d'amour et de crainte. Quand on parle de taqwa, ce n'est pas al-khawf. Ça, on a eu l'occasion d'expliquer, je pense, soit ici ou dans certains tafsirs, que la différence entre la crainte d'Allah et la peur d'Allah, quand on dit que quelqu'un a peur, c'est qu'on a peur d'une personne qui va vous faire du mal. Alors que la crainte d'Allah, c'est une crainte mélangée d'amour et qui est basée sur le ilm, la connaissance, une connaissance du Seigneur, du Créateur. Donc le terme khashiyah, c'est spécifique pour Allah Rabbul Izzah. Et cette khashiyatullah, elle n'a pas de limite. Il n'y a pas une période où on a la crainte d'Allah et une période où il n'y a plus nécessité d'avoir la crainte d'Allah. On avait plus ou moins bien développé la semaine dernière la nécessité d'éprouver cette crainte d'Allah en permanence au plus profond de nous-mêmes. Ça, c'est la plus grande preuve de ikhlas et c'est l'aboutissement du hadith qu'on avait vu juste avant, le hadith Jibril, le très long hadith Jibril, qui avait terminé sur la question c'est quoi le ihsan. Et on avait expliqué le ihsan, ce plus haut degré de foi, c'est quand tu fais l'adoration d'Allah, tu as la conviction qu'Allah, c'est comme si que tu es devant Allah et que tu fais les actions avec amour pour qu'Allah soit satisfait de toi. Et le deuxième degré dans le ihsan, si on n'arrive pas à développer cette relation avec Allah Azza wa Jal, le degré un peu au-dessous, mais qui reste toujours le plus haut degré de la foi, c'est lorsqu'on accomplit une bonne action, on a cette conviction qu'Allah est en train de nous observer et que donc je ne peux pas le décevoir. Et de même, quand je suis face au péché, j'ai cette conviction qu'Allah m'observe et donc je ne peux pas entamer le péché, je ne peux pas continuer le péché et je ne peux pas rester non plus dans le péché. Ça, c'est les réactions basiques que le croyant se doit de développer avec son Seigneur. On avait dit que la préparation spirituelle, la préparation de la foi, le prophète alayhi salatu wassalam l'avait fait avec les sahaba pendant combien d'années à Makkatul Mukarrama? Pendant 13 ans. Et les versets makki, les versets qui étaient révélés à Makkatul Mukarrama, avait pour but également de préparer la foi des croyants qui, à cette époque, vivaient des situations extrêmement, extrêmement difficiles. On avait fait une fois le parallèle entre la période Makki et la situation que parfois nous vivons, hein, avec le contexte extrêmement compliqué où la pratique de la religion devient de plus en plus complexe. On a parfois un peu honte, pas peur, mais on est un peu gêné parfois d'affirmer sa foi, de crainte Dit, regardez, gens de crainte des commentaires. On ne doit pas avoir cette crainte, sans le moindre doute. Mais c'est un contexte qui devient de plus en plus étouffant, de plus en plus asphyxiant, et il ressemble de plus en plus au contexte makki, au contexte de Makka, où il faut beaucoup de ikhlas, beaucoup de sincérité pour qu'une personne reste accrochée au dîn d'Allah Azza wa Jal. Et plus les années vont nous séparer de la période prophétique, nabawi, et donc nous rapprocher de la fin des temps, de Qiyama, plus les fitnas vont augmenter, plus les sources de tuopitude, tout ce qui nous mène vers le haram, va devenir quelque chose de tout à fait normal et accessible, en parlant de l'alcool, du zina, de l'adultère, et ainsi de suite, de tous les péchés qui, wallah musta'an, qui nous entourent, qui nous accablent. Et peu d'entre nous, illam rahimallah, ils trouvent une protection contre ces péchés. Peu de gens, wallah musta'an, arrivent à résister à ces fitanes, à ces péchés. Mais plus on approche du qiyama, plus la pratique de la religion deviendra difficile, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous avait donné par l'exemple du charbon ardent, quand le prophète a dit que viendra une époque où tenir ou pratiquer sa religion sera aussi difficile que de tenir au creux de sa main une braise ardente. Et dans d'autres hadiths, le prophète a dit que les gens à la fin des temps qui resteront fermes dans la pratique de la religion seront considérés comme des gens étranges, ghuraba. Fatouba lil ghuraba. Et bonne nouvelle à ces personnes que certains considéreront comme étranges, parce que ce seront les gens qui auront l'amour pour Allah de leur cœur à une époque où l'amour du dunya envahira les cœurs. Ce sont des gens qui auront l'amour pour un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et cet amour se traduit par la ittiba' sunnah, par l'application de sa sunnah, alors que ce sera une époque où les gens vont suivre tout et n'importe qui, et parfois même n'importe quoi, n'importe quel mode de vie, n'importe quel courant, n'importe quelle personne qui apporte une nouveauté, les gens vont se précipiter en délaissant la sunna. Et l'amour même et l'attachement même pour le Nabi alayhi salatu wassalam, l'admiration que le croyant doit avoir pour le prophète alayhi salatu wassalam, va se perdre d'année en année. Donc à cette époque là lorsque le croyant reste ferme dans sa religion, c'est vraiment là un grand signe de ikhlas, de sincérité. Les versets makki, les versets révélés à la Mecque, avaient pour but de raffermir la foi de ses croyants dans ces situations difficiles. Le hadith Jibril nous prouve que même après les périodes difficiles, il est impératif de renouveler sa foi, de revoir ses bases concernant les piliers de l'islam et les piliers de la foi, ce qui nous a amené vers la conclusion qu'en permanence le croyant se doit d'avancer dans la religion. Ne jamais se dire que j'ai des acquis et je me suffis de ces acquis. Si il y avait bien des gens qui auraient pu se suffire de leurs acquis, ce serait Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, il aurait ridhalik radiyallahu anhum ajma'in. Mais même avec le degré de iman, avec la qualité de leur a'man et saliha, avec le akhlaq, le comportement qui est exemplaire, avec le musahaba, le fait qu'ils avaient l'honneur d'être proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré toutes ces circonstances, malgré ces atouts qu'ils avaient, Allah Rabbul Izza envoie l'ange Jibril pour le faire un rappel, parce que le rappel est profitable pour le croyant, pour qu'on sache qu'on a toujours besoin de travailler les piliers de la foi. Et donc dans la continuité du hadith Jibril, il y a ce hadith qui parle de la taqwa, et qui en deuxième conseil parle, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا, que accomplit des bonnes actions, car les bonnes actions effacent les péchés. On avait expliqué la dernière fois, et ça c'était en conclusion, une conclusion qui était un petit peu, dans les circonstances un peu compliquées la dernière fois, mais c'était un point tellement, c'était vraiment l'ubbal-maudou, c'était vraiment la conclusion de ce hadith, où on avait vu que quand j'accomplis un péché, la première réaction c'est prise de conscience que c'est un péché. Aujourd'hui même j'ai lu une citation qui était vraiment pas mal, excusez-moi encore sur Facebook, d'un pieux prédécesseur qui avait cité, parole magnifique, qui dit que tant que, je n'ai plus en tête, tant que la personne n'est pas consciente de la gravité du péché, en ce sens, il ne prendra pas conscience qu'il est important de demander tawbah. Et ça rejoint ce qu'on avait dit l'autre fois, la première étape c'est réaliser que je suis dans le péché. Tant qu'on ne réalise pas que tel péché c'est une désobéissance envers Allah, et qu'on fait preuve de tahawun, on fait preuve de rafla, d'insouciance, on déconsidère la gravité du péché, on ne sera jamais sincère dans la demande de tawbah. Une personne qui, à chaque fois qu'il y a une jolie femme qui passe dans la rue, je ne sais pas s'il y en a à notre époque, vous direz peut-être oui, certains diront non. Oui ou non, regarde. Bonne réponse. Lorsque une jolie femme, si une personne ne peut pas s'en empêcher, qu'à chaque fois qu'il y a une jolie femme qui passe, il regarde, c'est comme ça. Mais la gravité, on avait déjà expliqué, ça fait partie des flèches empoisonnées de l'Iblis. Mais le problème, il y a deux niveaux. On ne veut pas sortir du sujet, mais en même temps, il est important parce que ça, c'est la conception du péché. On doit bien comprendre les différents niveaux de gravité des péchés. Il y a celui qui fait le péché et qui sait qu'il a fait une erreur. Il sait qu'il a déconné là. Et donc il va demander Tawbah à Allah Rabbul Izzah, il va faire deux rak'at, salat Tawbah, il va pleurer, il va implorer Allah son pardon. Ça c'est le meilleur des pécheurs, oui ou non? Car le Prophète m'a dit que tous les êtres humains sont des pécheurs. Et les meilleurs parmi les pécheurs, ce sont ceux qui demandent pardon. Celui qui n'a pas fait un péché depuis ce matin avec yaqin, qui lève la main. Mustahil, impossible. Autrement nous serions des malaïka. Donc le Prophète m'a dit que les meilleurs parmi les pécheurs, ce sont ceux qui après le péché, demande Tawba à Allah Azza wa Jal avec la sincérité, la dévotion, le désir de ne plus retomber, de ne plus recommencer. Ça, c'est les meilleurs des hommes. Et Allah Rabbul Izzah aime ce genre de serviteur. On avait expliqué les textes qui vont de ce sens, comment Allah aime retrouver un serviteur qui revient vers lui. Deuxième catégorie de pécheurs, et là c'est plus grave, c'est la personne qui fait tahawun, qui déconsidère le péché, qui pense que ça, c'est pas grave. Moi, je ne fais que regarder, mais il y a des gens qui font l'adultère. Moi, je ne suis pas de ce cas. Et donc, pour lui, cette action-là ne sera plus considérée dans la catégorie de ma'asiyah, de péché. Ce qui veut dire qu'il va devenir, il va s'habituer à ce péché, il va devenir addict à ce péché, et de ce fait, il deviendra un fasiq, un pécheur endurci. Et à partir du moment, regardez la perversité du diable, de Shaitan, de ses insufflations, mais également le côté dangereux du jahl, de l'ignorance. Quand une personne ne réalise pas la gravité du péché, la notion du péché, ben il ne pensera même pas à demander pardon. Parce que pour lui, on demande Tawbah si on a fait l'adultère. Je demande Tawbah si j'ai tué quelqu'un, si j'ai volé. Mais regardez une jolie femme, il ne faut pas devenir extrémiste, fondamentaliste quand même, c'est une créature de Dieu. Là, il y a des discours aussi, hein. Il n'y a même pas les musulmans ceux qui vont dire créature de Dieu, admirer la création de Dieu. Merci. On sait comment développer d'une autre façon. Ça, c'est ittiba' al-hawa. Ça, c'est suivre les passions, les pulsions d'âme. Ça, c'est l'afia. Et donc, la personne qui va déconsidérer le péché, il ne pensera jamais à demander pardon à Allah. Et quelle est la conséquence directe du fait de ne pas demander pardon à Allah Azza wa Jal après avoir accompli un péché? Qui se souvient du hadith? Point noir. Ce n'est pas les points noirs qu'on enlève chez l'esthéticienne. Non. Ça me dit que lorsque le croyant accomplit un péché, un point noir s'inscrit sur le cœur. S'il demande pardon à Allah Azza wa Jal, ce point noir s'efface. Et ça, c'est la clémence d'Allah. S'il recommence, il accomplit un autre péché, un second point noir s'inscrit sur son cœur. Et ainsi de suite. Mais celui qui, excusez-moi, le terme est vulgaire, qui mate, du verbe mater, qui regarde toutes les femmes qui passent et qui pour lui ça devient quelque chose de naturel. C'est pas pour rien que le prophète sallam avait interdit aux sahaba une fois de rester assis dans la rue comme ça, ne rien faire. Et le prophète sahaba dit au prophète d'Allah, on ne fait rien de mal. Le prophète dit, si vous voulez vraiment rester assis à cet endroit, de respecter les huquq, les droits des gens qui passent et le respect du chemin. Il dit au prophète d'Allah, c'est quoi le respect du chemin? Parmi les conseils que le prophète leur avait donné, c'est raddul basar, baisser le regard. C'est vraiment quelqu'un doit rester au niveau d'un muret ou alors une chaise ou un banc public et tout. Il faut éviter. De toute façon, le croyant n'a pas fait des choses. Il n'a pas perdu son temps à aller s'asseoir, regarder les gens passer. Notre temps est plus précieux que ça. Mais imaginez, mais awal shay, la priorité c'est le contrôle du regard. Parce que la personne qui va regarder à chaque fois le haram, les points noirs vont s'inscrire sur son cœur jusqu'à ce que ce cœur devienne obscur. Et lorsqu'un cœur devient obscur, les prêches, les versets du Coran, le fait d'écouter les hadiths n'ont plus d'effet sur ce cœur. Et subhanallah, ces derniers temps, Allah voulu ainsi que différents tafsirs qu'on est en train de revoir dans Ibn Kathir vont dans ce sens, qui prouvent que le Coran a un effet que sur les cœurs sincères, que sur les gens qui recherchent la proximité d'Allah, que sur les gens qui ont l'envie de devenir pieux. Celui qui est de le raflard, de l'insouciant, de le péché du matin au soir, le Coran ne fera aucun effet sur son cœur. Et qu'Allah nous protège. Parce que la pire des choses, c'est quand Kalamullah ne touche plus le cœur. Qu'est-ce qui touchera notre cœur alors? Si la parole d'Allah ne touche plus notre cœur, dites-moi, on attend quoi pour avoir un changement dans le cœur? Qu'Allah nous protège. Vous savez, qu'est-ce qu'on peut attendre? Oh, Allah nous protège, il ne faut pas souhaiter. Mais l'étape suivante, parce qu'Allah est Rahman Rahim, Allah est clément miséricordieux, quand il voit que son serviteur n'avance plus, qu'est-ce qu'Allah envoie? Avant adab, ibtila, des épreuves. Parce que les épreuves, ça va casser cette rouille, inshallah, sur le cœur. En tout cas, les ibtila vont laver le serviteur de ses péchés. Mais personne ne doit souhaiter en arriver à là, atteint d'une maladie ou avoir un gros problème qui fait que la personne étant dans une situation difficile, elle est éprouvée par Allah. Et là, par rapport à l'épreuve, Allah pardonne les péchés. Vous voyez, dans toutes les situations, Allah Azza wa Jalla, sa clémence, il donne la possibilité aux serviteurs de retourner vers lui. À nous de voir, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend les situations extrêmes pour revenir vers Allah? Et tout démarre des choses basiques. Les choses basiques, c'est les péchés du quotidien. En aucun cas, on ne peut dire que les petits péchés, ce n'est pas grave. Là, wallah, certes, il y a des péchés graves, le shirk, le kufr, sans le moindre doute. Mais ne jamais déconsidérer le petit péché, parce que le petit péché entraîne des points noirs. Et lorsque le cœur, comme on l'a dit, devient noir, le cœur devient insensible. Et lorsque le cœur devient insensible, on n'avance plus. Bien au contraire, on recule. Lorsque le cœur devient insensible, on trouve une tranquillité et un plaisir de le ma'asiyah, de le péché. Et ça, c'est la pire des choses. Alors que le croyant, parmi ces caractéristiques, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub, le croyant trouve la quiétude, la tranquillité dans la pensée d'Allah. Alors que le munafiq, l'hypocrite, le pécheur rendu ainsi, il ne se sent pas bien à la mosquée. Il n'aime pas écouter les wa'v, il n'aime pas écouter la parole d'Allah, il n'arrive pas à se concentrer dans la prière, ça n'intéresse pas les majalis, on parle d'Allah et de son prophète, il veut fuir, il veut aller très loin, juste accomplir ce qui est obligatoire et partir. C'est quelqu'un qui trouve ad-diq, il trouve comme un étau de son cœur lorsqu'il y a la parole d'Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est vraiment des cas extrêmement graves. Et pour retourner, c'est très difficile. Allah nous protège, mais tout démarre de notre relation avec les péchés. Donc, on a dit, il y a trois catégories de péchés. On a dit le premier, on a dit le deuxième, celui qui ne donne pas l'importance au péché. Et la troisième catégorie, c'est la pire. C'est celle qui a reçu la promesse de le prophète alayhi salatu wassalam qu'Allah ne leur pardonnera pas. Ce sont ceux qui font mujahara, qui font ouvertement les péchés et qui sont fiers de leurs péchés. Il y en a qui font des péchés et qui en sont fiers, qui ne se cachent même pas. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas honte de désobéir à Allah devant les gens, mais pire encore, ils n'éprouvent aucun gêne à désobéir à Allah Azza wa Jal. Pour ça, m'a dit que Allah Rabbul Izzah pardonne à tous ses serviteurs, sauf ce genre de personnes qui font les péchés, donc ouvertement, qu'Allah nous protège. Donc, dans les trois conseils que le prophète alayhi salatu wassalam avait donné dans le hadith d'Abu Dharr de la dernière fois, la crainte d'Allah en toutes circonstances, l'accomplissement de bonnes actions, parce que les bonnes actions vont effacer les péchés. Quand on dit la première réaction, c'est comprendre qu'on a fait un péché, comprendre la gravité, éprouver les remords, demander tawba avec l'intention ferme de ne plus retourner vers le péché, s'éloigner des asbab, s'éloigner de tout ce qui nous emmènerait vers les péchés, et avec ça, accomplir de bonnes œuvres, parce que les bonnes actions vont effacer, incha'Allah, les péchés qui ont été accomplis. Si quelqu'un s'est rendu compte qu'il a fait un péché, il doit s'empresser de donner par exemple une sadaqa, ou de faire deux raka'at de salat, ou de jeûner un jeûne nafil, avec cet espoir que ce jeûne-là, ou cette salat, ou cette sadaqa, lui permettra de voir son péché effacé, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a expliqué. Et enfin, troisième conseil que le prophète avait donné, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, d'avoir le meilleur des comportements avec notre prochain. Quand le prophète avait dit dans le hadith que la chose qui pèsera la plus lourde dans la balance au jour des comptes, ce sera le bon comportement. On l'avait expliqué la dernière fois, la relation entre piété, accomplissement de bonnes œuvres et bon comportement. S'il y a un des trois qui n'est pas présent, il y a un déséquilibre et la personne n'est pas dans le droit chemin. Son iman n'atteint pas le summum. S'il n'y a pas de taqwa, les actions n'ont pas de valeur et le comportement n'apportera pas grand-chose et vice-versa. La personne qui, là aussi, se fait piéger par Shaitan, on lisait encore pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, il y a des gens qui disent que l'islam se pratique de le cœur. Très facile. Une dame qui ne se couvre pas les cheveux, ou un monsieur qui s'habille avec le pantalon qui descend dessous la cheville, et qui fait des péchés. Ça peut être un homme ou une femme qui vit comme tout le monde, mais qui va dire que l'islam, c'est au plus profond de soi. Alors, expliquez-moi, ben pourquoi est-ce qu'Allah Rabbul Izza révèle ces versets? Pourquoi est-ce que la pudeur fait partie de la parure du croyant et de la croyante? Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal demande à la femme de se couvrir ne serait-ce qu'un brin de cheveux, de ne pas se parfumer quand elle sort, de faire en sorte que quand elle marche, ses pas n'attirent pas le regard ni l'odeur de son parfum? Et pourquoi est-ce que les Ummahat al-Mu'minin et les époux des Sahaba et les croyants pieux s'empressent d'accomplir ces bonnes œuvres? Donc il y a des gens qui sont, on va dire que ce n'est pas leur faute, ce sont là des insufflations des waswasa des shaytan, qui dit qu'on peut vivre comme tout le monde sans qu'on voit qu'il y ait une identité de musulman dans la manière de s'habiller ou autre chose. Le plus important, c'est dans le cœur. Et ça c'est des paroles d'égarement, d'égarement du shaytan. Parce qu'on a expliqué la dernière fois que la bonne action, et on a eu le temps de citer le verset, وَلَعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. On n'avait pas dit ça la dernière fois, dans un long verset qui explique, qui parle des bonnes paroles du croyant. Il dit que ces bonnes paroles, c'est-à-dire le bon comportement, les paroles nobles du croyant, وَلَعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ, les bonnes actions vont l'élever. En commentaire, les savants disent que le bon comportement n'aura une valeur qu'à partir du moment où il est accompagné des a'mal salih, des bonnes actions. Si quelqu'un se contente d'avoir le meilleur des comportements, mais il ne prie pas, il ne jeûne pas, il ne lit pas le Coran, il ne fait pas le dhikrullah, il ne s'arrête pas, il ne dit pas stop à son haram, ce bon comportement ne lui sera d'aucune utilité, commenté à des savants. Wallahu ta'ala a'lam. Et le hadith du jour, on peut ne serait-ce l'introduire, je pense qu'il faudra deux séances pour l'expliquer. Wallahu a'lam. On peut faire rapidement aussi. Hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Très souvent, on parle de l'importance de l'éducation des enfants. On a beaucoup insisté là-dessus il y a quelques temps, et on avait parlé des bases spirituelles qu'on doit enseigner aux enfants. Très souvent, notre priorité en tant que papa, maman, en tant qu'enseignant également, c'est de faire en sorte que nos enfants prient. C'est de faire en sorte que nos enfants sachent bien le Coran. Hassan, sans le moindre doute, ce sont là de nobles objectifs. La prière, c'est à partir de quel âge? 7 ans. La première étape, c'est 7 ans. Ensuite, 10 ans. Ensuite, quand l'enfant est, lire, là, ça devient obligatoire. Il n'y a pas de date limite ou d'âge limite, par contre, pour l'apprentissage du Coran. Si quelqu'un peut le faire étant petit, khair wa ni'ma. Autrement, quel que soit l'âge, on est talib al-ilm, on doit apprendre, subhanallah, jusqu'au dernier moment, selon certaines sources, jusqu'au tombeau. Donc ça, il y a le temps. Par contre, il y a une étape, très souvent en tant que murabbi et murabbiya, en tant qu'éducateur et éducatrice, on a parfois tendance à oublier, à zapper. Et ce hadith, c'est vraiment le plus beau rappel. C'est vraiment le condensé de ce qu'on a essayé de véhiculer comme message à maintes et maintes reprises concernant l'encadrement spirituel de l'enfant, qui, à mon sens, est la base qui doit précéder même l'accomplissement des bonnes actions. Et c'est un accompagnement spirituel qui doit être fait à partir du moment où l'enfant, il a ce qu'on appelle en arabe al-idrak, il comprend. On appelle ça tamiz. Il réalise, il arrive à distinguer les paroles, à intégrer et à retenir. Le prophète alayhi salatu wassalam était sur une monture et il avait avec lui Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas radiallahu anhuma. Et notre prophète alayhi salatu wassalam, pendant ce trajet, il va l'interpeller Ya Ghulam. Ya Ghulam, que veut dire oh mon enfant? Ghulam, c'est pour un enfant qui est encore petit. Un petit. Ya Ghulam, inni u'allimuka kalimat. Oh mon fils, je vais t'enseigner quelques paroles. Les savants disent que il est très important, quand on s'adresse aux enfants, d'utiliser des phrases courtes. Pas de longs discours, bien sûr, ils ne vont pas comprendre. Sujet, verbe, complément, petite phrase très courte qu'ils seront capables même de mémoriser. Et avant de véhiculer le message, on attire l'attention de la personne, de l'enfant. Il dit, écoute, je vais te dire quelque chose, c'est très important. Et là, le prophète me dit, oh mon enfant, je vais t'enseigner des paroles. Et lorsque l'enfant, il sait que ça vient du prophète, sans le moindre doute, l'enfant va se montrer attentif. À notre époque, c'est un peu plus difficile. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce qu'on va se perdre, on ne va même pas démarrer le hadith. Les savants, les ulama tarbiya, cette fois-ci, les spécialistes du monde musulman qui travaillent vraiment les hadiths basiques sur l'éducation, ils disent que pour que l'enfant capte
Et pour que l'enfant accepte le discours de l'adulte, il doit y avoir une relation de confiance et de respect mutuel et de considération mutuelle entre l'enfant et l'adulte. D'où l'importance de ne jamais humilier ses enfants devant les gens ou même directement, de ne pas trop l'accabler, de ne pas être excessivement sévère ou de ne pas trop l'aimer, comme il dit en créole, trop gâter l'enfant. Parce que quand on gâte trop, on aime trop l'enfant, il va comprendre que ça c'est un papa trop gentil. Ça, Youssouf qui est là-bas, je suis sûr que c'est un papa trop gentil lui. Je suis sûr. Oui, non, Youssouf. Ses enfants ont de la chance, mashallah. Ni être un papa trop sévère, parce que l'enfant aura peur de son père. On a besoin de créer un climat de confiance, pas un climat de peur, de crainte, que quand on rentre à la maison, tac, les enfants ils se cachent derrière le canapé. Là, honnêtement, si je vois ça, moi j'appelle l'assistant social. Tout de suite, ce n'est un problème. D'accord? Si je ne me trompe pas, on ouvre la 18e parenthèse. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, avait nommé un calife, comment on appelle ça, un dirigeant. Omar, quand il était calife, il avait nommé un responsable d'une région. Et Omar a rendu visite à cette personne. Et cette personne l'a accueilli chez lui. En entrant dans la maison, Omar avait vu avec des enfants qui jouaient, qui sautaient, une vie de famille. D'accord? Et lorsque le papa, c'est-à-dire son Amir, celui qu'il a nommé Amir, est entré, les enfants se sont dispersés. Et il y a eu le silence total. Et Omar, pourtant, on connaît le charisme d'Omar. On connaît le caractère. Ce n'était pas un rigolo, Omar, mashallah. C'était quelqu'un qui avait une force de persuasion. C'est celui qui, lorsqu'il était dans un endroit, Shaitan, il s'enfuyait. Parce que Omar, c'était vraiment terrible. Omar, il faisait peur au diable même. C'était Allahu Akbar, c'était vraiment un monument. Certains savants disent que là où, si les Nasara avaient une personne comme Omar ibn al-Khattab de leur religion, la abidahun nas, ils l'auraient adoré. Tellement Omar, c'est quelqu'un d'énorme, extraordinaire, exceptionnel. On revient. Donc Omar, lorsqu'il est entré dans la maison, il a vu ce qui s'est passé. Et ça ne l'a pas plu. Ça ne l'a pas plu parce que il ne faut pas se baser sur ce que nous entendons de Hazrat Omar. Omar était quelqu'un de fort, de très dur, mais il avait un grand cœur. Il aimait sa femme, il aimait ses enfants. C'est quelqu'un qui aimait la vie de famille. Il avait beaucoup d'amour pour ses enfants. Lorsqu'il a vu le comportement de ce papa, il a dit que, est-ce que ça se passe toujours comme ça chez toi? Il a dit oui. Et là, tu es fier. Il veut montrer à Omar que je suis un dur. Il a dit que quand je rentre, il y avait une expression, mais le professeur racontait ça souvent, ça fait longtemps. Sakata an-natiq wa sakana al-mutaharrik. Celui qui parlait quand j'entre, il ferme sa bouche, sakata. Et celui qui bougeait, al-mutaharrik, sakana. Il s'arrête tout de suite de bouger. Lorsque Omar a vu comment c'était un homme au cœur dur, il a destitué de son poste. Il a dit que je ne peux pas nommer quelqu'un comme toi pour la Ummah. Parce que si tu n'as pas de pitié de raham pour ta femme et tes enfants, si tu n'arrives pas à donner de l'amour à ta femme et tes enfants, comment est-ce que je peux espérer que tu donnes de l'amour au ra'iyya, à l'ensemble de la population? Parce que quand on gouverne, ce n'est pas une tyrannie, c'est on donne de l'amour aux gens. On doit faire en sorte que les gens se sentent bien dans ce pays et que les lois servent aux gens et ne soient pas en leur défaveur. Donc c'est une petite parenthèse. Donc la relation entre le père et le fils doit être une relation de confiance, pas trop aimée, que l'enfant comprend qu'il n'y a pas de limite. Avec ce papa-là, je peux tout avoir et il ne m'empêchera de ne rien faire. Parce qu'un enfant a besoin de barrières. Pour la construction de sa personnalité, l'enfant a besoin du non. Parce qu'il va pousser à bout, il attend une seule chose. Il y a des fois qu'on dit, mais il est capricieux, il n'écoute pas, c'est un bourrique. C'est pas un bourrique. Un bourrique, c'est un âne. C'est pas un âne. Il attend avec impatience que tu reprends les rênes, que tu lui dises, non, arrête, ça suffit. Là, il sera content parce qu'il va voir la limite de l'enfant, parce qu'à un moment donné, il ne voit plus la frontière entre l'enfant et l'adulte. Les deux rôles se mélangent et ça le trouble. Ça le trouble. Ça, c'est la psychologie de l'enfant. Il a besoin du non. Donc, pas un papa qui est trop gentil, pas un papa qui est trop méchant, et surtout, et c'est là que c'est un peu plus compliqué, un papa qui donne l'exemple. Parce qu'il y a at-tarbiya bil, à chaque fois j'oublie cette expression, ça remonte à des années d'études, il faut rouvrir les cahiers. Il y a at-tarbiya, l'éducation par les thèses, j'ai oublié comment on dit, et ensuite il y a at-tarbiya bil qudwa, l'éducation par le modèle. Je dis à mon fils, il ne faut pas fumer, hein, ça c'est pas bien, hein, regarde ce que la publicité dit, cancer poumon et tout, fume à Chadel Jardin, fume, n'a pas de sens. Est-ce qu'il y aura une relation de confiance? Non. Je dis à mon fils, hé, allez, sors de la télé là, devant la télé, va faire ta prière à la mosquée, Salat al-Isha. L'enfant, il a peur, il s'en va. Quand il s'en va, il regarde derrière, papa l'assise, il garde son match. Attends, il va t'obéir tant que tu seras, tant qu'il va ressentir l'autorité, tant qu'il sera petit, faible et tout. Mais à un moment donné, là, il va dire que t'es le vieux, on a un problème, moi. Mais je, on a un problème, mais si on a un problème, dis tout de suite. Pourquoi il n'y aura plus de respect? Le respect, ça s'obtient, ça. Le respect, ça ne se perd pas avec l'âge. Faux. Il y a beaucoup de gens qui disent, maman, quand il grandit, respecte plus. Non. Tant que les relations restent correctes, et tant que le papa et la maman restent admirables et restent des modèles pour l'enfant, l'enfant a besoin d'admirer son papa et sa maman. Le garçon, son papa, la maman, non, le garçon, son papa, la fille, sa maman. À partir du moment où on va les décevoir dans notre spiritualité, si on est musulman, dans notre comportement ou dans la fidélité par rapport à notre discours, c'est là qu'il y aura une cassure. C'est là qu'il y aura une cassure. On va perdre la confiance de l'enfant. Donc, quand, bien sûr, le prophète, lorsqu'il dit ça à Ibn Abbas, le prophète, c'est Uswatun Hasana. C'est le modèle pour l'humanité. Donc, Ibn Abbas, il va écouter, il va boire les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour lui, c'est un grand honneur. C'est comme si c'est une petite révélation pour lui. Mais en fait, ce n'est pas pour lui. C'est pour lui et c'est pour tous les enfants du monde. C'est pour tous les parents du monde. Et c'est pour tous les musulmans qui doivent passer par ce premier stade qui est la construction de la spiritualité du croyant et le développement de sa relation avec Allah Azza wa Jal par le biais de 3 ou 4 conseils très simples, très courts, par des phrases d'une grande simplicité où il n'y a aucun mot compliqué, mais qui sont riches de sens et que si le croyant, quel que soit son âge, quelle que soit son ancienneté de la religion, Wallahi, il le met en pratique, il devient les meilleurs, un des meilleurs des mu'mines parce qu'il aura la crainte d'Allah. C'est la recette de la taqwa. C'est la recette de l'éducation. C'est la recette de la réussite de nos enfants. La recette de la réussite du mu'min, d'une façon générale, dans ce dunya et dans le akhira. Parenthèse encore, les savants disent, voyez, le prophète, il est sur une monture, il a un enfant avec lui. Notre prophète n'est pas un roi, n'était pas un souverain qui a besoin d'une cour, qui a besoin de luxe, qui a besoin de garde du corps et tout. Le prophète sallam, il est sur une monture. S'il monte sur un chameau, c'est sur un chameau. Si c'est sur un âne, c'est sur un âne. Sur un cheval, c'est un cheval. Il y a un enfant qui est là, il le prend, il parle avec cet enfant, il discute. C'est pas qu'il dit que bon, moi je m'adresse uniquement aux têtes pensantes de la société. Il dit, viens faire un discours à tel endroit. Il dit, quel endroit ça? Tel quartier? Ah! Amène-moi des quartiers où il y a des cocos, où il y a des intellectuels. Moi je veux parler aux médecins, aux ingénieurs, aux avocats, aux architectes, d'accord, pas aux artichauts. Pas monsieur tout le monde, ça ne va pas parler qu'un mécanicien, qu'un peintre, sans déconsidérer, sans donner trop de valeur à personne, excusez-moi, ce n'est pas un jugement, mais il ne faut jamais prendre les gens de haut. C'est dire qu'en face de chaque personne, il y a un mu'min ou une mu'mina. Et Allah Rabbul Izzah ne regarde ni l'apparence, ni la couleur, ni l'origine ethnique, ni le niveau social, ni ton compte en banque, ni ton niveau d'études. Ce n'est pas parce qu'on a Bac plus 75 qu'Allah Rabbul Izzah va nous donner plus de considération que celui qui est au chômage. Quand on a les questions dans la tombe, là, les anges ne demandent pas le CV. Les anges ne demandent pas, donne-moi ton CV avant et après on posera les questions. Là, wallah, ce sont les mêmes questions pour tout le monde. Et l'ange, ça ne l'importe pas rien. Ça ne lui fait ni chaud ni froid que tu sois chirurgien ou que tu sois mécanicien ou chômeur. Ça n'a aucune importance. Aham Shay, il y a quoi dans ton cœur? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce qu'il y a l'amour d'Allah? Est-ce qu'il y a l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il y a l'attachement pour le dîn islam? Et qui dit attachement dit pratique. Parce que quand on demande quelle est ta religion, c'est pas juste ma religion, c'est l'islam, c'est juste un titre. C'est-à-dire, c'est ce qui va ressortir du cœur. Celui qui est attaché au dîn, celui qui est rattaché au dîn, il répondra facilement. Et ce n'est pas des questions simples à répondre, ça. Si je demande à n'importe quel enfant, comment tu t'appelles toi, sans bonnet? Hein? Abdul comment? Abdul Muqid. Qui est ton Dieu? Allah. Qui est ton prophète? Ça. Ta religion? On va dire qu'un enfant peut répondre. Pour moi, c'est parti, c'est bon. Aucun problème. Je veux même dire aux gens, dans mon testament, quand vous m'enterrez, s'il vous plaît, écrivez un petit mémo et mettez-le juste là, sur mon kafan. Et si les anges me disent qui est ton Dieu, je dis, mon Dieu, c'est... Voilà. Et puis je lis la réponse. Je dis, il y a plein de solutions. Ou alors branchez un microphone et tout. Dites-moi. C'est pas une question de phrase ou d'articulation. Parce que les questions que les anges posent, il aurait pu poser des questions plus complexes pour tester vraiment si on n'est pas un mini-moutakine ou non. Non, ce sont des questions basiques que même un mounafiq ou un kafir aurait pu dire à notre place. Mais ces questions-là vont interpeller ce qui est au plus profond du cœur. Parce que quand on pénètre dans le monde de l'invisible, dans le monde du raïb, de l'au-delà, je veux dire, c'est un monde où tout ce qu'il y a dedans ressurgit. C'est pas pour rien, c'est la première chose, la première étape la plus qui est vraiment palpable, la première étape qui nous amène vers une relation, vers quelque chose, vers un apport, c'est la réception des livrets de compte. Parce que quand on reçoit les livrets de compte, il n'y a plus rien à cacher là. Il n'y a plus l'hypocrite, il n'y a plus celui qui faisait semblant. Tout ce qu'il y avait comme action dans ta vie, dans des 75 ans, dans 75 années de ta vie, tout est visible et tout sera lu et tout sera présenté. Donc quand on met le pied dans la tombe, on est dans le monde de l'au-delà, et dans le monde de l'au-delà, ce n'est pas les paroles qui comptent, ce n'est pas l'apparence, c'est ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Preuve que ce n'est pas là une étape facile. Le prophète alayhi salatu wa salam avait enterré un de ses compagnons, hadith très connu, avait enterré un de ses compagnons, il est resté longtemps près de la tombe. Il a dit aux sahaba, « Oud'ou li akhikum bithabat, fa innahu l'ana yus'al. » Demandez, invoquez Allah, maintenant, faites dua. Faites dua qu'Allah, Rabbul Izza, facilite à notre compagnon, parce que les anges sont en train de lui poser des questions. Sahaba, compagnon du prophète. C'est-à-dire qu'il était avec le prophète, alayhi salatu wa salam, il y a encore quelque temps, Les meilleurs des hommes, il est sous la tombe, le prophète se fait du souci. Est-ce qu'il saura répondre les trois questions, lui ou non? Sahaba, où sommes-nous en termes de piété, de pratique, d'assiduité, de tiba' al-sunna? On doit se faire du souci. Les questions qui sont posées dans la tombe font ressurgir la sincérité, l'amour profond que nous avons pour Allah, pour son prophète, et l'attachement qu'on a pour le dîn. Donc on revient. On doit avoir à travers chaque personne quelqu'un qui a iman. Et il y a des fois où on voit une personne, subhanallah, comme ça, il n'a pas l'air d'être formidable dans sa pratique de la religion, mais il peut avoir un degré d'amour pour Allah qui dépasse notre foi et la foi de l'ensemble de la masjid. Ça peut être quelqu'un qui vit des épreuves dans sa vie, mais qui malgré ça reste fier de son dîn. Yani, umouman, de façon synthétique, Allah Rabbul Izzah seul sait ce qu'il y a dans le cœur des gens. On n'est pas là pour juger, mais on est là pour propager et pour transmettre le haq, la vérité, et pour transmettre les paroles d'Allah et son prophète. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il juge utile d'enseigner ces paroles à un jeune enfant. Et cet enfant, subhanallah, il va devenir un jour le plus grand des mufassirin. Et il est surnommé comment? Comment on dit en arabe? Hablul umma, la corde de la umma. Ibn Abbas radiallahu anhuma était surnommé Hablul umma parce que c'était celui qui a eu la plus grande connaissance, la plus grande compréhension du Coran. Bon, fait alayhi salatu wa salam avait fait ce doua pour Ibn Abbas une fois. Il y a, subhanallah, le doua aussi m'échappe à ce terme. Allahumma allimhu ilma ta'wil. Allahumma faqqihhu fi d-din wa 'allimhu 'ilma at-ta'wil. Oh Allah, accorde-lui le tafaqquh, la compréhension de la religion, et enseigne-lui at-ta'wil, la compréhension des textes, c'est-à-dire le tafsir. Ibn Abbas, c'est celui qui avait la plus grande compréhension du Coran. Et Ibn Abbas radiallahu anhuma, lors du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait à peu près 14 ou 15 ans. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, Ibn Abbas avait entre 14 et 15 ans. La majorité des savants disent qu'il avait à peu près, certains disent 15, certains disent 16, mais on retiendra à peu près 15 ans au décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il est devenu le plus grand mufassir. Et les savants disent, voyez, ce dîn a été porté par les épaules des shababs, des jeunes. Très souvent, on a cette... On avait déjà expliqué ça avant. On a l'impression qu'Abou Bakr, c'était un vieux monsieur, un vieux tcha-tcha, il avait 92 ans, il marchait que le poisson comme ça. Il avait une grande barbe blanche jusqu'à son nombril, il avait des vêtements rapiécés, il était maigre. Certes, il était maigre, certes, il avait des vêtements rapiécés, certes, il avait une longue barbe. Mais il n'était pas vieux du tout, il était plus jeune que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plupart des sahabas qui étaient auprès du prophète alayhi salatu wa sallam n'avaient pas 40 ans. Celui qui a été la pièce maîtresse pour l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Madina, c'était Hazrat Ali radiallahu anhu. Sans l'aide de Ali, le prophète alayhi salatu wa sallam n'aurait pas pu déjouer les plans des Quraysh et aller à Madina al-Munawwara. Celui qui a été l'acteur essentiel pour que l'islam s'installe à Al-Madina, c'était Moussa bin Umar radiallahu anhu, qui était un jeune homme. C'est-à-dire que cette umma, elle se distingue par ses shababs. Et ce n'est pas pour rien si, parmi ceux qui auront la place sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jalla de Qiyamah, ce sont les jeunes qui ont grandi dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla, parce que ces jeunes-là, ils ont porté haut et fort l'étendard du dîn de l'islam, et nous devons marcher à travers leur pas, Inch'Allah. Donc le prophète Ali salatu wasalam, on va s'arrêter, on va juste citer 40 minutes, c'est la limite. On va juste citer les conseils du prophète alayhi salatu wa salam et on essaiera de développer, Inch'Allah, la prochaine fois. Ce hadith est, wallahi, il est magnifique. Et vraiment, c'est comme si qu'on trouve vraiment un renouveau de foi à travers ces paroles. C'est-à-dire que ces paroles-là sont adressées à un enfant, à un enfant. Et moi, je n'ai même pas encore développé ça. Ça veut dire que dans mon cheminement vers Allah, je n'atteins même pas l'âge d'un enfant sahaba. Parce qu'Ibn Abbas, il le met en pratique tout de suite, sans le moindre doute. Alors que nous, on va voir que c'est des choses qu'on n'arrive pas vraiment à mettre en pratique. C'est-à-dire que dans mon cheminement, dans ma construction spirituelle, je ne suis pas encore à l'âge de 6 ans, 7 ans d'un sahaba. Même si j'ai 50 ans, ou 25 ans, ou 50 ans, je ne suis pas encore à leur niveau en termes de relation avec Allah Azza wa Jal. Donc, le hadith qu'on a mis en arabe tout à l'heure, la traduction. Abdullah ibn Abbas, dit, j'étais un jour derrière le prophète alayhi salatu wa salam sur la monture, il me dit, oh jeune homme, je vais t'enseigner quelques préceptes. Ah, traduction est un petit peu approximative. Ihfadillah yahfadhuk, garde Dieu, Dieu te gardera. On expliquera, ça veut dire quoi, garde Dieu. Le terme n'est pas adapté du tout. C'est-à-dire que, on verra la prochaine fois. Garde Dieu, tu le trouveras devant toi. Quand tu as une demande à adresser, adresse-la à Allah. Quand tu cherches de l'aide, demande-la à Allah. Sache que si la communauté se réunissait pour être utile, ses membres ne te seraient utiles que par quelque chose qu'Allah aura écrit en ta faveur. Et s'ils se réunissaient pour te causer dommage, ils ne te causeraient dommage que par quelque chose qu'Allah aurait écrit à ton encontre. Les kalam, tranche traduction, le stylo, le kalam qui écrit donc le destin, et relever et les feuillets secs. Donc, à travers ce hadith, Inch'Allah, la prochaine fois, on va voir que Ihfadillah, c'est-à-dire protège le dîn d'Allah. Ça veut dire quoi? Protéger le dîn d'Allah, c'est le mettre en pratique, accomplir les bonnes actions, s'éloigner des péchés, l'enseigner aux gens. Être un da'i, ramener les gens vers le dîn d'Allah. De cette façon, on protège le dîn d'Allah. Et quand quelqu'un protège le dîn d'Allah, il a la protection d'Allah. On va voir que ça veut dire quoi avoir la protection d'Allah? C'est la solution à tous nos problèmes. Parce que la protection d'Allah, c'est dans ta santé, c'est dans ta foi, pardon, j'aurais dû commencer par là. Dans ta foi, ensuite ta santé, ta famille, tes biens, tout ce qui nous cause des soucis parfois, la solution, c'est dans la pratique du dîn. La pratique du dîn kamil, la religion complète, nous assure la protection d'Allah, Rabbul Izzah. On va voir également dans la deuxième phrase, celui qui protège la religion d'Allah, il a la guidée. Il sera toujours bien guidé par Allah. Et on va voir comment il est important d'être bien guidé par Allah. Parce que tout démarre du premier pas. Quand les gens y rentrent, on a vu la notion de péché, le point noir. Mais quand d'autres personnes ils font des efforts vers Allah, ben, au fur et à mesure, Allah va les accepter. Et cette personne va grimper, il va monter. Il va avoir un haut degré de iman. Et ça, c'est une faveur d'Allah Azza wa Jal. Et tout commence par la protection du dîn d'Allah, c'est-à-dire la mise en pratique des ordres d'Allah, l'éloignement du haram et d'inviter les gens vers la religion d'Allah, Azza wa Jal. Autre point qu'on verra, Inch'Allah, la prochaine fois, que le cœur soit orienté vers Allah. On a besoin de quelque chose, on s'adresse à Allah. On a besoin d'aide, on ne demande pas aux gens, viens m'aider, j'ai besoin de telle chose, on demande de l'aide uniquement à Allah. On est en danger, on s'en remet à Allah. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Et ça se concrétise par l'exemple que le Prophète va donner à Ibn Abbas juste après, que si tout le monde se réunit pour t'aider, pour te donner quelque chose, ils ne te donneront rien de plus que ce qu'Allah t'a déjà prédestiné. Et que si tout le monde se réunit pour te faire du mal, ils ne te feront rien de plus que ce qui t'a été prédestiné. Ça veut dire que ton cœur doit être avec ton Seigneur et pas avec les gens. N'attends rien des gens. Ne te rabaisse pas pour avoir les faveurs des gens. N'aie pas peur des gens. Libère-toi de cet esclavage. Ça, c'est de l'esclavage. Quand on a besoin de quelqu'un, on va passer sur ses caprices et tout parce qu'on a besoin de quelque chose. Ou alors qu'on a peur de quelqu'un, on va avoir un autre comportement parce qu'on craint. Tout ça, c'est de l'esclavage. L'homme, le mu'min, il a l'espoir en Allah basse. Il n'a pas besoin des riches, il n'a pas besoin des personnes aisées, rien du tout. Il a sa confiance en Allah Azza wa Jal et il n'a peur de personne. Il a la crainte d'Allah uniquement. Ça fait un mu'min qui est qawi, qui a une force spirituelle. On verra ça donc la prochaine fois. Après, il y a la notion du destin. Ça apaise les cœurs, comme on avait vu dans le hadith Jibril. Et la parole qui réconforte. Wa'alam anna nasra ma'assab. Ça, c'est dans une deuxième version. Qu'à chaque fois qu'il y aura des difficultés, que tu te montres patient, sache que là, l'aide d'Allah viendra bientôt. Et quand les épreuves deviennent très difficiles, inna ma'al usri yusra. Ça, c'est pour que l'enfant devienne optimiste. En fait, optimiste, hein, on aurait plutôt dit qu'il ait une confiance, une idée positive de son Seigneur, que même si les situations paraissent compliquées, un jour Allah enverra son aide pour qu'il garde toujours confiance en Allah. Donc ça, ce sont les bases de l'éducation, ce sont les bases de la spiritualité, de la confiance que nous devons avoir en Allah. Inch'Allah, on va essayer de les détailler la prochaine fois. Qu'Allah nous accepte, nous donne la possibilité de comprendre ces quelques paroles. Un petit rappel, ça c'est des points qui font un peu moins plaisir. On a fait passer une circulaire depuis quelque temps à la madrasa, donc ça c'est sans rapport avec le programme.